Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.fm, dans l'émission « L'art, c'est pas du luxe ». Ce jour, je reçois Denis Vaginet. Bonjour Denis Vaginet, qui est donc le commissaire de l'exposition « Maudit Lyonnais », dont nous allons parler longuement durant notre entretien, et qui est aussi vice-président de la Fondation Renault. J'ai visité samedi le lieu d'exposition, à savoir le Fort de Vaise, un lieu étonnant, merveilleux, qui mérite quand même pour les burgiens, les lombistes, que vous nous en parliez en quelques mots.
Bonjour, le Fort de Vaise, qui est associé aujourd'hui à la Fondation Renault, est un lieu historique. Il fait partie de la première ceinture de fortification de Lyon. Donc Lyon a été fortifié au milieu du 19e siècle, d'une part pour défendre la ville, et puis les bonnes ou les mauvaises langues disent aussi pour mieux surveiller les Lyonnais qui ont un petit peu la réputation d'être turbulents.
D'accord. Ah oui, donc c'est pour ça aussi qu'on voit les canons,
ça. Ah bien sûr, oui. Et donc, pour la petite histoire quand même, oui. Qui fait partie de la grande, ces forts ont été obsolètes dès qu'ils ont été construits. Puisque vous parlez de canons, entre-temps, le canon rayé a été inventé et la portée a été augmentée considérablement. Donc il devenait très très vulnérable.
D'accord. Et ce lieu que l'on peut visiter au moment des expositions ou à d'autres moments, pour ceux qui voudraient se rendre sur ces belles pentes?
Alors, ce lieu vient d'être restauré de manière assez conséquente et la possibilité de le découvrir a changé. Il était ouvert plutôt pendant les journées du patrimoine et pendant les expositions. On essaye de l'ouvrir de manière beaucoup plus considérable, donc dans des espaces qui ont été repensés, qui ont été mis aux normes et qui accueillent aujourd'hui des expositions de manière tout à fait satisfaisante, à l'instar de n'importe quel lieu de grandes expositions. Ce qui fait que ce lieu est ouvert beaucoup plus qu'auparavant. On peut le découvrir, mais toujours soit en prenant rendez-vous, soit en essayant de pousser la porte et de voir si elle s'ouvre, soit au moment de manifestations particulières.
En sachant que nous trouvons un site qui précise tous ces éléments-là.
Voilà, vous allez sur le site de la Fondation Renault et vous trouvez tous ces éléments.
Donc, Fondation Renault qui n'a rien à voir avec les voitures, ni avec le chanteur. Qui sont ces Renault-là?
Alors la famille Renault, en tout cas en ce qui concerne la fondation, commence à apparaître sur le terrain lyonnais par Pierre Renault, qui était architecte, qui était l'ami des artistes de ce moment-là et des politiques de ce moment-là. Édouard Herriot, évidemment.
Édouard Herriot, oui.
Oui, qui n'était pas un artiste, mais qui était un homme politique, et qui accueillait quand même grandement les artistes à ce moment-là, comme Tony Garnier, comme Eugène Brouillard, que vous avez pu découvrir vous aussi par ailleurs. Et donc, c'est un homme qui était très actif sur le terrain lyonnais, qui a fait fortune de par son métier, notamment en construisant des ouvrages hydrauliques.
À travers le monde.
À travers le monde. Son fils, Serge, a été architecte aussi, et avec son frère Jean-Jacques, ils ont construit cette fondation qui a été reconnue d'utilité publique il y a une trentaine d'années et dont l'objectif est de défendre l'art local et régional et le patrimoine.
D'accord.
Les deux axes sont très importants.
Donc vous en êtes le vice-président. Et j'ai cru comprendre que l'équipe s'était plus ou moins renouvelée, ou il y avait un souffle nouveau qui était donné à cette fondation.
Ouais, Les fondations de cet ordre sont des petites fondations, sont très liées à leurs fondateurs.
Oui.
Et leurs fondateurs, ils font comme tout le monde, ils vieillissent. Et à un moment donné, il y a une nécessité de repenser les choses et de les réinscrire dans un paysage social qui a complètement changé. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, ce qui a été fait dans les années 80, bien fait pour cette époque-là, a vieilli et le souffle nouveau dont vous parlez a commencé à jaillir et on produit ses effets maintenant.
Oui, je le dis puisque je sais que la Fondation Renault, hein, ça recommence ou tout recommence, hein, selon
oui,
la fiche.
Avec une parenthèse qui permet de rester modeste, le Rode recommence rappelle que quand même il s'est passé des tas de choses avant.
Oui, hein, puisque moi j'ai sous les yeux aussi une expo de 2013 avec Evaristo, Simone Gambus, etc. Et le lieu, là je me tourne vers Pauline, le lieu a été rénové de façon assez fabuleuse.
Ah ben oui, on espère que ceux qui le connaissaient auparavant, on a eu d'ailleurs l'occasion de le vérifier lors des vernissages. Oui, c'est plutôt bien reçu et de manière assez étonnante, quoi, puisque c'est une vraie modification interne comme externe.
Mmh. Oui, donc faut le dire, ce fort surplombe la Saône.
Oui, il était là aussi pour, je le disais, se garantir de l'intérieur et de l'extérieur. Il fait face au Fort Saint-Jean qui est plus connu et plus repérable. Et entre les deux, il y avait une chaîne qui était tendue et qui empêchait les bateaux de passer. Et donc, tir croisé aussi des canons dont vous parliez tout à l'heure.
D'accord.
Qui n'ont jamais eu l'occasion de s'exprimer. Donc, c'est canons silencieux, mais en tout cas, ils étaient présents.
Et donc, nous parlons de la Fondation, mais faut-il préciser qu'il y a aussi l'association des Amis de la Fondation.
Oui, parce qu'une Fondation, c'est une entité très resserrée sur elle-même, qui est identifiée à son conseil d'administration, qui n'est jamais très important, entre 11 et 18 personnes. Pour l'instant, une douzaine à la Fondation Renault. Donc, on a besoin de forces vives et très souvent, les fondations sont épaulées par une association des amis. Donc, c'est les statuts qui le prévoient. Eux, ils peuvent avoir des adhérents et donc développer des ressources humaines beaucoup plus conséquentes que les administrateurs de la fondation eux-mêmes.
Et dans cette association des amis, bien évidemment, ces adhérents-là peuvent soumettre des idées.
De partout, et oui, il n'est pas impossible de soumettre des idées à la Fondation elle-même. En fait, plus on a d'idées, mieux c'est.
Oui, nous sommes d'accord. Donc, vous avez parlé de deux vernissages, à savoir qui ont eu lieu dans la semaine, hein, puisqu'il y a deux expositions.
Oui.
Donc là, nous allons nous centrer sur Modiglionnais, mais l'autre exposition, c'est...
Dans le cadre des 150 ans de la naissance de Tony Garnier, avec plusieurs expositions lyonnaises, le Fort de Vez présente une collection qui émane justement de celle que Pierre Renaud avait pu faire, donc ami de Tony Garnier. Et nous, au Fort de Vez, on présente plutôt l'œuvre libre, l'œuvre moins connue de Tony Garnier, donc des dessins et peintures de paysages. Donc il y a à peu près 140 œuvres qui sont présentées.
Oui,
c'est une exposition tout à fait importante qui vient compléter de manière un peu inattendue les autres expositions lyonnaises consacrées à cet architecte peintre aussi.
Et donc ces deux expositions qui ont lieu en même temps sur deux niveaux différents. Hein, la construction de ce projet-là a pris du temps, je suppose.
Oui, alors c'est la rencontre de deux projets qui se trouvent présentés de manière concomitante, mais le calendrier a été bousculé par les travaux. En fait, c'est les retards pris par les projets de travaux qui ont amené à un moment la décision de faire ces deux expositions en même temps. Donc elles ont deux thèmes totalement différents et deux objets différents, mais on les réunit et on espère que ceux qui seront attirés par l'un des thèmes iront voir le second et pourront faire des découvertes.
Oui, ce que je ne manquerai pas de faire. Je me suis concentré que sur les Modiglionnais, en sachant qu'il y a une densité, une intensité de couleurs et d'œuvres et de peintres et sculpteurs tellement différents que passer d'un lieu à l'autre, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au bout d'un moment, la rétine et le cerveau ont tendance à saturer.
Oui, oui, bah, ça dépend de la taille du cerveau. Hein, de la fraîcheur de la rétine. Hein, mais en effet, c'est toujours compliqué. À l'intérieur d'une exposition, cet élément de saturation joue pour beaucoup. D'ailleurs, c'est comme les bons films et les bons livres, hein, les expositions, il faut surtout les revoir. Il faut bien commencer par les voir, mais ce qui est important, c'est d'aller les revoir. Et pour ces phénomènes de saturation, on fait souvent des découvertes importantes à la deuxième visite.
Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir pourquoi le titre « Maudit Lyonnais ».
Alors, « Maudit Lyonnais », c'est un titre qu'on a choisi sur la suggestion de l'éditeur du livre, et qui nous a d'emblée plu parce qu'il rendait bien compte de nos interrogations. Mais je peux vous dire qu'il n'est pas du tout apprécié par les auteurs de cette époque-là, par les acteurs de cette époque-là, qui ne se trouvaient pas maudits du tout. Les années 60, ça a été des années sympathiques. La France est restée en guerre jusqu'en 1962, hein, sans interruption, ce qu'on se rappelle peu, mais c'est une réalité, et c'était des périodes de sortie de guerre extrêmement exaltantes. On se logeait pour pas grand-chose, on se nourrissait pour pas grand-chose, dans des conditions qui sont pas celles d'aujourd'hui, qu'on réclamerait aujourd'hui. Mais c'était facile de vivre et les artistes trouvaient facilement des simèses pour exposer leurs œuvres. Donc ils ont plutôt un souvenir exaltant de cette période-là. Ils ont pensé vivre des moments heureux, ce qui était certainement le cas. En revanche, on voulait attirer l'attention sur l'accueil des artistes lyonnais à terme et sur la mémoire un peu défaillante d'une ville qui a du mal à mettre en avant ses artistes, pour des tas de raisons. Les collectionneurs vont plus volontiers les acheter à Paris ou à l'étranger, et il nous semble que les artistes lyonnais sont relativement peu accueillis sur place, pas très bien défendus, et très vite oubliés. Donc c'est un peu pour faire un travail de mémoire et pour essayer de réveiller ces mémoires, voire de leur réinsuffler un souffle nouveau, qu'on a voulu mettre l'accent là-dessus. C'est maudit pour ceux qui sont oubliés, et puis maudit aussi pour le public, qui n'est peut-être pas assez attentif.
Donc vous parlez des années 60, l'exposition des Maudits Lyonnais tourne autour de cette période-là.
Alors elle est consacrée absolument à cette période-là. Alors c'est les années 60, avec un petit élargissement, mais relativement modéré. Les artistes qui ont mûri à la fin des années 50 et qui ont pu exploser au début des années 60, ou ceux qui ont mûri pendant les années 60 et qui vraiment ont eu une importance et une singularité tout de suite après. Donc on couvre plutôt une vingtaine d'années, mais on s'est quand même arrêté 5 ans avant, et grosso modo il a fallu prendre une date tout à fait arbitraire. On a des œuvres qui vont jusqu'en 76.
Me revient en mémoire, puisque nous parlons beaucoup de mémoire, sur la peinture lyonnaise et ce lieu qui était un peu en marge, quelques mots de Baudelaire, qui, je le rappelle, a vécu à Lyon. Vous vous souvenez de ces mots-là?
Oui, on se les rappelle parce qu'ils sont cités en permanence.
D'accord.
C'est Lyon, le bagne de la peinture. Et l'esprit fuligineux donne ses artistes. Et en fait, ce qui est étonnant et ce qui m'a amené à soutenir la notion des maudits, c'est qu'on retient de Baudelaire uniquement ces termes très péjoratifs, alors que c'est très anecdotique. Ça correspond à la description d'un salon en 1845. voilà, les Lyonnais qui sont, je ne sais pas, c'est peut-être le plaisir de citer Baudelaire et de montrer à quel point ils sont érudits, mais ce qui m'a paru quand même étonnant, et ce contre quoi je m'appuie un peu, c'est de se dire pourquoi faut-il aller chercher des citations qui datent d'un siècle et demi pour pouvoir parler d'une peinture qui est quand même très actuelle. Donc mon désir serait qu'on ne parle plus de Baudelaire quand on parle de la peinture qui se fait à Lyon.
Oui, donc cette peinture-là, elle a quand même vécu dans l'ombre par rapport à Paris ou d'autres lieux.
Oui, alors de manière un peu paradoxale, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des villes comme Bordeaux, Nice, desquelles on peut citer des artistes. On peut citer plus facilement des artistes de la Dombe que des artistes lyonnais. Donc c'est un peu paradoxal. Bah, c'est aussi une ville qui était suffisamment grande pour faire vivre de manière suffisante des artistes locaux et pas assez pour leur donner une ampleur importante. Ceux qui voulaient vraiment faire carrière comme artistes, comme ça a été le cas d'ailleurs au cours du 19e siècle, bah, ils étaient en lien avec Paris, ils exposaient dans les salons parisiens. Et encore pas cette fermeture lyonnaise qui s'est produite dans les salons où il y a eu un désir de privilégier les artistes locaux. Et puis dans les années 60, il y a eu quand même le jeu de la décentralisation. L'idée qu'il fallait effectivement permettre à chacun de s'exprimer ailleurs que dans la capitale. Bon, la capitale ne s'était encore pas aperçue qu'elle n'était plus la capitale de la peinture, puisque New York avait quand même utilisé les décennies précédentes pour préparer sa première place sur le monde de l'art. Mais c'est curieux parce que cette décentralisation, qui était une excellente idée, a finalement aussi desservi les artistes qui ont essayé de colorer leur ville et le tissu social de leur travail. Mais il y est resté.
Eh oui. Ouais.
Mais alors, les années 60, c'est des années particulières, puisque Lyon a été extrêmement important pour essentiellement le théâtre, avec Planchon et Maréchal.
Oui.
Et les artistes, ces artistes-là étaient extrêmement suivis, déplaçaient les journalistes de Paris. L'opéra était aussi pas mal placé à ce moment-là, mais ça n'a pas servi à la peinture. Alors même que plusieurs des peintres de cette période ont fait des décors, hein, quelquefois ont été salués pour leur travail de décorateur. Mais il n'y a pas eu de développement à partir de cette reconnaissance du théâtre et de l'opéra.
Qui, par exemple, a fait...
Alors, bon, il y a Jeanne Noir qui commençait à avoir un succès tout à fait important. Il y a Mouvant qui, lui aussi, a fait des choses importantes. Il y a Jim Léon, une manière plus anecdotique, Marie-Thérèse Bourra, qui a illustré les chaises de Ionesco, par exemple, mais qui s'est arrêté là parce que l'aventure ne lui a pas beaucoup convenu. Et puis, il y a tout le travail de Schoendorff avec le théâtre, hein,
oui,
qui, lui, est intervenu comme régisseur, décorateur, inspirateur, qui a eu un rôle important. Lui, en revanche, il a été reconnu comme tel.
Il est vrai que cette peinture dite lyonnaise... elle a bien du mal à être reconnue. Enfin, moi qui me promène à travers la France, on me cite qui ? Truffemus, par exemple, mais qui est aussi exposé à Paris.
Oui.
Hein ? Entre autres.
Oui, enfin, entre autres, on rajoute toujours ça. Et ouais, les autres, il faut les chercher quand même, hein, puisque de fait, y a quand même quelques artistes excellents qui sont reconnus. Donc Truffemus, Cottavaux, oui, Fusaro, Adilon ont été dans la génération précédente et ont eu une certaine reconnaissance, voire une reconnaissance certaine pour Truffemus par exemple, ou grâce au Japon comme Cottavaux, quoi. Mais voilà, on n'est pas prophète en son pays, hein, donc les développements se font ailleurs. C'est aussi des artistes qui sont très peu représentés dans les musées lyonnais, donc on a un peu de mal à les voir. Ben, on sait que les artistes lyonnais sont plus présenté à Villefranche, chez Edini, qu'à Lyon même, ce qui est aussi regrettable.
Voilà, j'allais venir à Paul et Eliette Dini, le musée de Villefranche, qui est une grosse collection de Lyonnais. Et aussi le musée Ravier, que je n'ai pas encore visité, qui est à Morestel.
Oui, alors c'est plus un lieu d'exposition. Donc où il y a eu toujours des expositions tout à fait importantes et qui, effectivement, ont mis en lumière les artistes qui nous intéressent. Plus facilement que Lyon. Lyon, il y a depuis quelque temps quand même, le musée propose des monographies qui sont tout à fait intéressantes et bien faites. Et, Raymond Grandjean, par exemple, qui fait partie de nos artistes, a été présenté de manière tout à fait satisfaisante. On aimerait que ce soit plus fréquent et que ce soit un peu plus régulier. Et puis surtout que ces artistes puissent être présentés de manière permanente.
Ce qui n'est pas le cas. Et des connexions, par exemple, avec le musée de Brou ou le musée Chaintreuil à Pont-de-Vaux, il n'existe pas.
Alors, il faut se rendre compte que vous parliez de renouveau. Les projets ne manquent pas, et notamment les projets de collaboration. On espère beaucoup travailler sur l'art régional, mais aussi avec des idées qui nous sont chères de métissage. Et il faut d'abord démontrer notre capacité à faire vivre ce lieu tout à fait important que vous avez évoqué, et des projets aussi tout à fait importants qui vont nous permettre, nous en sommes certains, de penser des collaborations.
Oui, les connexions.
Mais on change quand même complètement de registre le travail qui a pu être fait dans des conditions intéressantes était plus un travail d'amateur porté de manière dynamique par l'association des amis de la Fondation que par la Fondation elle-même, et par exemple n'a pas laissé de traces. Aujourd'hui, on a des réserves qui permettent de préserver les œuvres, on a des lieux d'exposition qui permettent de respecter les œuvres tant pour l'hygrométrique, pour les températures, les expositions sont accompagnées de publications, et de publications sérieuses. Donc on va laisser des traces, ce qui va nous permettre d'avoir une nouvelle identité qui est indispensable pour imaginer les collaborations que vous évoquez.
Oui, puisque là vous dites amateur, mais c'est un travail de très grand professionnalisme.
Alors c'est la caractéristique du renouveau, c'est de s'orienter vers le professionnalisme, et tout a été fait depuis 2 ans avec professionnalisme. Les travaux, la restructuration, la préparation des expositions, tout a été repensé, et on espère que ça sera repéré en tant que tel.
Oui, donc on va parler des femmes, déjà, que j'ai pu découvrir, enfin, le travail de certaines femmes, Geneviève Baumer, par exemple.
Oui, alors, bon, moi, ça me convient bien que vous commenciez par les femmes, encore qu'on risque de nous reprocher trop de galanterie, mais ça me convient bien, par exemple, c'est difficile d'en trouver en parité. Et Geneviève Baumer, évidemment, qui pour laquelle on présente une œuvre centrale. Il y a 3 œuvres d'elle dans l'exposition. Elle est représentée par une sculpture qui a été acquise par la Fondation Renault, qui montre là son intérêt pour l'art contemporain. Et cette sculpture, on peut pas la rater puisqu'elle est au centre de la grande salle des expositions. Elle est assez particulière puisque c'est le corps moulé d'une femme allongée sur le dos qui se trouve complétée par des attributs masculins.
Oui.
Donc c'est
qui est de 74.
Hein. Alors c'est très important de le signaler. Oui. Cette sculpture date de 74. Elle s'appelle Synthèse. Et elle a été appelée par commodité par les journalistes l'hermaphrodite.
De l'époque. Disons.
De l'époque, mais c'est très important de souligner qu'elle est appelée synthèse, qui est beaucoup plus proche de l'esprit de sa créatrice. qui est quelqu'un de tout à fait contemporain, moderne, innovant. Donc c'est des moulages en plâtre, moulages sur le vif, donc à partir d'une technique qu'elle a mis au point elle-même. Cette sculpture a été présentée en 77 à l'ELAC, dans une exposition qui s'intitulait « Paroles de femmes ».
Qu'est-ce que c'est, l'ELAC, s'il vous plaît ?
Alors, l'ELAC, c'est le premier centre d'art, de présentation d'art contemporain qui a été ouvert à Lyon et qui se situait au dernier étage du complexe de Perrache, et donc qui a été obsolète à partir du moment où il y a eu un musée d'art contemporain à Lyon. Mais c'est le premier lieu d'exposition qui a été voulu par des gens influents et tout à fait importants pour l'art, notamment les critiques de Roudil, Léran, Mur, qui ont pensé ce projet-là. Donc en 77, il y a une exposition Parole de femmes. C'est des artistes femmes qui ont été présentées.
Lyonnaises pour la plupart ?
Alors, en tout cas, il y avait plusieurs Lyonnaises importantes. Et en recherchant les critiques écrites à cette époque-là, j'ai quand même été étonné de voir que Synthèse n'a pas entraîné beaucoup de critiques. On aurait pu imaginer quand même que ça aurait été le cas. En revanche, le titre lui-même a été extrêmement critiqué parce que les critiques hommes ont trouvé quand même que c'était très très violent de revendiquer pour des femmes une parole.
D'accord. Mais bon, Almodovar venant voir cette synthèse-là, transgenre, dirions-nous maintenant, serait totalement ravi et conquis.
Oui, mais justement, aujourd'hui, on voit le côté peut-être moderne ou anticipateur du transgenre. Ce qui est important, c'est que c'est une œuvre d'artiste qui nous permet de nous interroger sur ce que c'est que la représentation, fondamentalement, dans l'histoire de l'art. Et Geneviève Baumer, en moulant ces sujets, elle moulait tout, les fruits, les feuilles, les légumes, des choses d'une extrême fragilité. Elle disait qu'elle volait la vie. Et c'est toute la question de Pygmalion, c'est toute la question de Donatello qui s'est fait, pour son David, suspecter d'avoir moulé le visage magnifique d'un homme. Donc cette représentation-là, est-ce qu'un artiste représente la réalité ou autre chose que la réalité, c'est fondamentalement posé ici. L'hermaphrodite, c'est une tradition en sculpture, on en connaît, hein, au Louvre, Rome. Et alors, avec cette particularité de l'époque, c'est que l'hermaphrodite, on découvre en faisant le tour que c'est un hermaphrodite de dos. On est sûr que c'est une femme, et quand on fait le tour, on a un peu plus de doutes. Et c'est une découverte. Là, ce que Geneviève Baumer fait, c'est une offrande comme ça, puisque son personnage est couché sur le dos, et donc montre d'emblée et son sexe d'homme et ses seins de femme. Cette question de la réalité, de la perception, elle le travaille beaucoup. Par exemple, il y a une œuvre un peu plus tardive où elle a représenté des feuilles de potirons moulées, et les potirons eux-mêmes, cachés sous les feuilles, sont des fesses moulées. Et l'œuvre s'intitule « Vois-tu ce que je vois ?» Et c'est toute la question de la perception et de la représentation. D'ailleurs, vous évoquiez la saturation tout à l'heure, la manière de regarder les choses, et dans cette exposition, on a plusieurs artistes qui permettent de travailler ça, elle est très personnelle, elle est liée à la culture, elle est liée à l'époque dans laquelle on se trouve, elle est liée à ce que l'on a pu étudier, ce que l'on nous a transmis. Et il est étonnant de voir que l'on ne voit pas la même chose, justement.
Oui, et parfois soi-même, à un moment donné, ouais. Et quand on revient.
Ouais. Et oui, c'est pour ça que je parlais de revenir, ouais. Et de revoir les expositions plutôt que de les voir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de percevoir des nouveautés à chaque fois et de se rendre compte qu'on est totalement tributaire de nos sens. Et que cette question de la représentation, qui est inhérente à la démarche de l'artiste, elle est aussi vieille que la création, et on peut espérer qu'elle sera aussi longue que la création durera.
Et le regard que nous portons est aussi lié à la... à notre culture ou au message que l'on reçoit des médias, puisque inévitablement, j'ai dit transgenre.
Oui.
Et le mot n'existait pas à
l'époque. Et le mot n'existait pas du tout. Hein. Mmh. Et après, c'est la possibilité de récupération. Hein. Je pense que les artistes, en dehors de l'aspect mercantile, sont très heureux d'être récupérés.
Oui. D'ailleurs, cette. Ce moulage-là, j'en ai vu non pas une copie conforme, je ne voudrais pas critiquer l'artiste auquel je pense, mais il y avait une grande ressemblance. Et ce moulage-là, que j'ai pu voir dans une expo, date de 2010, par exemple.
Oui, ça montre surtout que Geneviève Baumer avait une vision anticipatrice extraordinaire.
Nous allons parler d'une autre femme, Marie-Thérèse Bourac. Et là, si j'ai commencé par... parler des femmes, galanterie peut-être, délicatesse pourquoi pas, mais parce que j'ai été scotché par la puissance. Mmh. Et Marie-Thérèse Bourac, oui, là, oui. C'est une découverte pour moi.
Tant mieux, et j'espère que ce sera une découverte pour beaucoup de gens, et on peut penser qu'effectivement, parmi les artistes les plus puissants présentés dans cette exposition, eh bien, il y a les femmes. Mmh. Et étonnamment, c'est aussi les femmes qui, à cette époque-là, étaient capables d'aborder la nudité.
Oui.
À Lyon, il y a très peu, et dans cette période, il y a extrêmement peu de nus, et ce sont essentiellement des travaux de femmes. Alors, Marie-Thérèse Bourac, c'est oui. vraiment quelqu'un de singulier, parce qu'elle est arrivée autodidacte, comme beaucoup de peintres de cette époque, douée en déshérence scolaire, comme aussi beaucoup d'artistes de cette époque. Elle est arrivée très très tôt, à 16 ans, sur la scène artistique lyonnaise, première exposition à laquelle elle a été repérée. Elle avait 16 ans. Les œuvres qui sont présentées lors de cette exposition sont toutes datées des années 60. Et elle a donc à peine plus de 20 ans quand elle fait ça. Et c'est assez incroyable d'imaginer qu'une jeune fille de cette période-là, issue de la bonne bourgeoisie, bien pensante de Lyon, ait pu avoir au fond d'elle-même cette capacité d'exprimer des choses qui nous touchent énormément. Et de reprendre de manière tout à fait intuitive des traces laissées par l'histoire de l'art qu'on retrouve dans certaines de ses œuvres, qu'elle ne connaissait vraisemblablement pas.
Très audacieuse. Et...
Alors, moi, ça me fait plaisir que vous disiez ça. Oui, je la considère, moi, comme quelqu'un de très audacieux, qui a un sens de la construction, de
oui,
la couleur, du détail qui vient tout équilibrer et faire vibrer, donner du sens, qui est assez extraordinaire. Quoi. Mm.
Donc, nous allons marquer une respiration en écoutant... aussi, et pourquoi pas, une jeune cantatrice. donc nous écoutions Julia Ledzeva dans du Mozart. J'ai envie de partir sur des routes que j'ai déjà empruntées, à savoir que j'ai pu découvrir au long de quelques décennies ces quelques peintres que vous exposez aussi. J'ai pu les découvrir entre autres à Villefranche et chez Paul Gauzit. Je vais nommer Armand Avril, qui est lyonnais, même si maintenant il vit dans le sud, enfin à Cotignac, je crois. Donc, vous présentez un peu.
Oui, oui. Oui, alors, justement, dans la présentation, là, vous passez aux hommes, on peut dire quand même qu'il y a la présentation de 39 artistes, 29 de l'époque, et puis 10 précurseurs. Et donc, forcément, il y a une présentation de gens extrêmement variés, de techniques extrêmement variées, de formes extrêmement variées, ce qui peut dérouter parfois certains visiteurs aussi, qui imaginent qu'il y a quelque chose d'un fil conducteur. En fait, c'est une époque.
Oui.
Donc, cette époque, elle est représentée par des gens très, très différents. Donc, vous aviez évoqué les femmes, il y en a d'autres dans l'exposition, là, les hommes. Avril, justement, c'est un bon exemple de quelqu'un qui tâtonne, qui, pendant les années 60, peint, présente sur les cinémas ses peintures, et puis qui découvre, à un moment donné, quelque chose, pas forcément par hasard, mais qui est de l'ordre du montage, du bricolage, de l'organisation de scènes, et notamment à partir de Bouchons de Champagne, au début, qu'il monte dans des casiers de typographe. Et donc, c'est le début d'une œuvre très, très personnelle, bon, qui a pu être qualifiée d'art brut. Enfin, ça, les questions peuvent être traitées indéfiniment. Mais en tout cas, c'est le début d'une œuvre très singulière qui se poursuit toujours.
Hein,
parce
qu'Avril,
à 93 ans, est toujours très actif et continue. Et qui montre justement la vivacité des artistes de ce moment-là, la possibilité de travailler dans des créneaux novateurs. Avril est un des artistes qui a exposé tout de suite à Paris, et où il a rencontré un succès qui ne s'est pas démenti depuis.
Oui, puisqu'il y a encore une grande exposition, lui, dans le sud de la France, il y a deux ans.
Et lui, justement, il ferait peut-être exception sur la capacité de montrer, depuis ses premiers succès de tout début des années 70, sa capacité à mobiliser un public fidèle et intéresser des musées et des collectionneurs.
J'avais aussi rencontré au musée de Villefranche, bien avant qu'il devienne le musée Paul Dini, Philippe Dereux.
Alors Philippe Dereux, c'est quelqu'un de tout à fait intéressant, et donc c'est le colleur des plus sûrs, qui arrive pour lui tardivement sur la scène artistique, puisque parmi nos artistes, il est né beaucoup plus tôt, en 14, et il expose pour la première fois en 60. Il est vraiment en plein dans notre période, et pour un art qui est tout à fait singulier, puisque en vacances, il rencontre Dubuffet, pour qui il chasse les papillons et collecte quelques fleurs, lui montre ses herbiers et autres, et va s'inspirer de des voies ouvertes par ce maître-là. Et il se met, lui, à coller des épluchures. Et donc, c'est à partir de ces épluchures collées qu'il va faire des tableaux qui vont être extrêmement colorés, qui peuvent appeler l'art tribal. Et pendant 10 ans, il va faire un art tout à fait singulier, qui relève vraisemblablement de l'art brut quand même, parce que quelqu'un qui n'a aucune technique au départ, qui a une grande culture, mais qui se considère pas comme très adroit de ses mains, et qui va inventer cette technique-là. Alors, c'est un artiste qui est extrêmement intéressant, parce qu'il montre à quel point tout artiste est dépendant de la période dans laquelle il vit et des techniques de l'époque. Lui dit qu'il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans la colle vinylique, par exemple. Et ça paraît quelque chose d'anecdotique, ça ne l'est pas du tout, parce que ces épluchures ont pu traverser le temps grâce à ce collage très particulier. Elles étaient collées sèches, elles étaient collées fraîches et elles étaient mises à sécher après, selon la technique de l'herbier qu'il avait fait quand il était plus petit, quoi.
Et donc, vous dites Arbrout, alors là, ce sont des querelles de spécialistes. D'autres vous diront non, puisqu'il avait une culture et que Aloïse ou Robillard, qui étaient dans des structures hospitalières pour personnes en difficulté, parleraient, eux, véritablement d'Arbrout, alors que Dereux, on pourrait aussi dire art singulier. Même s'il y a une parenté, une proximité.
Oui, le problème, c'est que d'ailleurs, avant d'imaginer d'appeler notre exposition Les Maudits, on avait pensé à Art Singulier, sauf qu'à peu près 99% des artistes appartiennent à l'art singulier.
Actuellement, on revendique même.
Voilà. Donc c'est assez difficile, c'est un fourre-tout absolu. Oui. Après, effectivement, vous avez raison, Dereux, qui était très proche de l'art brut, et notamment de l'inventeur de l'art brut, a dit lui-même qu'à partir du moment où l'art brut avait été défini, il n'y avait plus d'artiste de l'art brut. Donc il ne se considérait pas, lui, comme un artiste d'art brut. Mais ce qui est très important, c'est de voir l'évolution de son œuvre. Pendant 10 ans, il a travaillé en dialogue avec ses épluchures. C'est-à-dire qu'il les prenait selon une technique économe tout à fait importante. Il fallait qu'il consomme les fruits et les légumes qu'il épluchait pour ses tableaux. Et il collait ses épluchures un peu au hasard, comme ça. Et il se faisait des collections de feuilles préparées. Et il les feuilletait. Et il y en a une qui lui parlait, comme ça. Et il choisissait celle qui lui parlait, et à partir de là, il se mettait à les décorer à la gouache, et sans aucune technique. Et il avançait comme ça, grâce à son œil. Il inventait son tableau au fur et à mesure, et toujours dans une espèce de dialogue avec l'œuvre. C'est l'œuvre qui lui disait quand elle était terminée. Il fallait toute une cérémonie qui était tout à fait importante. Et là où on peut se poser la question de l'art brut, c'est de voir comment son œuvre a évolué très rapidement dans la décennie suivante. Et où justement, il s'est mis à fabriquer ses œuvres avec une intentionnalité. Il a fait ses scènes, ses théâtres, ses foules. Et de mon point de vue, le Dereux fondamental, c'est le Dereux des 10 premières années.
Que vous présentez, que je ne connaissais pas.
Et que vous ne connaissiez pas, ce qui montre bien justement qu'il y a un petit problème de présentation.
Bien sûr.
Vraisemblablement, Dereux est assez considérable, essentiellement dans cette première décennie. Il reste tout à fait intéressant et on peut tout à fait se pencher sur ses œuvres après, mais ce sont des mises en scène. Il y a un côté quand même amusant et il y a un clin d'œil à chaque fois. Ça paraît pour moi plus facile.
Donc, à la différence des artistes de l'art brut, lui, il avait la capacité d'innover, de se métamorphoser et d'avancer, alors que souvent dans l'art brut il y a une répétition.
Oui, ça c'est le grand mystère de ce qui fait que certaines personnes que l'on peut considérer prises par une pathologie puissent créer et puissent créer dans l'innovation. Des grands noms de la peinture quand même qu'on ne citera pas, dont les psychiatres ont essayé de faire le diagnostic au cours des siècles, on sait très bien quand même que les personnes qui sont vraiment très occupées par leur pathologie, elles ne peuvent pas être innovantes.
Elles sont prises dans un enquistement. Un autre homme, alors tout à fait singulier, que je connais depuis aussi quelques années, dont j'ai vu des œuvres et qui a un nom qui circule beaucoup sur Lyon, à savoir Henri Huguetteau, qui a aussi été présenté à Bourg, je le rappellerai.
Oui, Henri Huguetteau, qui a été très heureusement régulièrement présenté. C'est vrai que quand on a vu une œuvre d'Huguetteau, en général, on se la rappelle. Donc ça facilite le travail des amateurs. Au moins, ils ont tout de suite des références. Mais qui est représenté aussi au Musée des Beaux-Arts de Lyon, Et chaque fois qu'il est présenté, il est bien présenté, avec une accumulation d'œuvres. Et c'est tout à fait intéressant de découvrir les œuvres du ghetto en nombre suffisant pour se rendre compte de l'ensemble du travail. Mmh. C'est vrai qu'il a une certaine particularité. C'est dans son existence, il a été considéré comme mort par la médecine à peine plus de 20 ans. Et il est sorti finalement... Du coma, et il a considéré, lui, toujours avoir deux dates de naissance et deux dates de mort. Il mettait souvent ces deux dates de naissance et il laissait en blanc la deuxième date qui serait la date de sa mort. Et lui, il a fait une œuvre qui n'était pas sans lien avec celle qu'il avait commencé à faire avant son accident.
Quel jeune, hein,
il avait 22 ans, il me semble. Donc, qui a touché son cerveau, qui a altéré certaines de ses capacités. D'ailleurs, il a abandonné le pinceau, qui était son premier moyen d'expression, pour une sculpture, en considérant qu'il n'avait plus la dextérité suffisante pour être un excellent peintre, et il voulait devenir, de ce fait, un sculpteur particulier, et il l'a été. Donc il a travaillé, et là aussi c'est en lien et avec la représentation et avec la temporalité, sur ce qu'il appelait les factices, c'est-à-dire des objets en plastique qu'on trouve dans les magasins de farce et attrape par exemple, et sur les mannequins.
Oui.
Donc c'est pas quelque chose de secret, sa mère était couturière. Et à 4 ans, il avait fait sa première œuvre en gribouillant un mannequin, le mannequin sur lequel sa mère travaillait, qui a été plus tard son premier mannequin. Ce qui n'est pas anodin aussi, c'est qu'il a passé toute sa convalescence dans l'atelier de sa mère, et qu'il a retrouvé des capacités créatrices dans cet environnement-là. Un des factices principaux dans son œuvre, c'est l'œuf. Et l'œuf qui est aussi en même temps l'œuf de couturière et le symbole de la vie et de la renaissance perpétuelle. Des œufs qui va recouvrir très très rapidement de gouttes de sang. Lui dit qu'il a commencé par les couvrir avec son propre sang, qui vieillit très mal. Hein, ça devient non plus rouge mais marronasse. Donc il a trouvé une peinture pour rendre l'illusion de la goutte de sang, qui, toujours en lien avec la vie, au fil du temps, ont très rapidement pris des formes de spermatozoïdes. Donc on a des œuvres entières qui sont recouvertes de spermatozoïdes rouges. Comme
on
ça.
Revient à l'œuf.
Et on revient évidemment à l'œuf. On est tout le temps autour de cette question.
Et au œuf.
Avec une symbolique qui est extrêmement importante sur les différents factices. Il met un nombre égal de légumes et de fruits féminins, masculins. On peut trouver des moulages d'étrons aussi qui indiquent la finitude, la fin de la vie. Enfin, c'est une réflexion permanente sur le côté éphémère. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on vient de parler de Derue quand même, mais ils sont dans l'exposition présentée ensemble, c'est que Huguetto travaillait sur les imputrescibles, qui était censé traverser les siècles et même tutoyer l'éternité. Et comme c'est des éléments plastiques, c'est très fragile, ça s'abîme aux UV, il faut les protéger, et ces œuvres sont toutes menacées. Et en face, on a les œuvres de Derue, donc faites à partir d'épluchures, qui sont destinées à se détruire très très rapidement. Et les œuvres de Derue faites avec des épluchures, elles ont été faites dans les années 60, elles sont identiques au moment où elles sont sorties de son atelier, et on peut raisonnablement penser qu'elles vont traverser, elles, encore de nombreuses décennies sans s'altérer.
Mmh. Oui, et il comptait aussi les gouttes de sang, hein, me semble-t-il.
Alors il peignait les a comptées. Alors c'est toujours cette question là de ce qu'est la vie. Bon, c'était aussi un angoissé, mais je ne me lancerai pas sur le terrain de la clinique, justement, qui me paraît tout à fait peu intéressant dans l'approche des artistes. En tout cas, il avait vraiment besoin de scander le temps. Il a compté les gouttes de sang, et à un moment, il a fait la comptabilité, c'est-à-dire qu'il comptait ses gouttes de sang pendant 5 ans.
Dans les tableaux.
Ans,
hein.
Et après, sur toutes ses œuvres dans lesquelles il y avait des gouttes de sang, il comptait tous les objets qui construisait ses œuvres et toutes les gouttes de sang qui les recouvraient. Et tout ça a été noté sur des carnets. Donc il avait à tout moment le compte exact des gouttes de sang qu'il avait peintes. Et quand il écrivait un petit texte, il indiquait le nombre des gouttes qui, au moment où nous lisons l'article, étaient dépassées. Il disait toujours ça, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtait jamais. Et il considérait qu'il ne s'arrêterait qu'au moment de sa mort. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
Et ça n'arrête pas de ne pas s'écrire.
Et ça n'arrête pas.
Oui. Et là, je reviens alors à un nom dont j'ai découvert parfois quelques œuvres, mais moins que Huguetto ou Dereux, à savoir, mais qui est un précurseur, Pierre Combet-Descombes.
Oui, alors on a voulu présenter quelques précurseurs. Bah, pour rappeler aussi les maudits, Pierre Combet-Descombes étant le plus connu et peut-être le moins menacé par l'oubli, encore que, et en tout cas sans doute un peintre qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, mais on a voulu indiquer que de tout temps à Lyon, il y avait quand même eu des artistes, alors singuliers, en tout cas qui ne s'étaient pas reposés sur leur laurier, qui avaient recherché tout au long de leur vie et qui avaient pu exploiter des veines tout à fait singulières. Combet-Descombes est un des artistes qui a sacrifié à l'érotisme de manière absolument sidérante. C'est un artiste qui reste excellent et qui est peu connu et qui n'est pas du tout associé à une peinture érotique, alors même que c'est le cas.
Oui.
Au point que, ce qui est amusant quand même, une critique à un certain moment disait de lui, mais oui, c'est bien beau ces tableaux-là, mais où peut-on le mettre ? Comme si, effectivement, un artiste devait se soucier de la présentabilité de son œuvre pour pouvoir la faire, quoi. Et ce que Combet-Descombes nous rappelle, c'est que l'artiste s'exprime, et qu'après, il appartient au collectionneur de savoir ce qu'il a envie de faire de son œuvre, de la montrer ou pas.
Là, je vais rebondir, parce que vous m'avez dit samedi le destin particulier d'un monsieur Roche, qui est maintenant à Paris, enfin exposé, en fonction du lieu.
Oui, alors Roche, parce que la fonction du lieu, je vais dire quelque chose de son œuvre, mais c'est d'ailleurs par rapport à cette période-là quelqu'un d'assez singulier, parce qu'il fait partie des artistes ouvriers qui ont été pendant très longtemps liés à leur travail dans l'usine. Et il y avait toute une recherche des personnes qui étaient capables de faire œuvre quand même. On va peut-être pas se détourner sur ce sujet-là maintenant, mais en tout cas, Roche a été ouvrier pendant très très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment aidé par des commandes pour pouvoir s'exprimer. Et il a, en tant qu'autodidacte, il est passé par un expressionnisme assez important, radical, à une recherche de l'abstraction et d'une certaine abstraction géométrique, avec toujours l'idée pour lui de faire disparaître tout point de fuite de l'œuvre pour avoir les œuvres les plus flottantes possibles, les plus éthérées possibles. Et en utilisant, ce qui était aussi quelque chose de très caractéristique de l'époque, les teintes des peintures industrielles qui étaient disponibles. Ces toiles qui ont eu un succès relativement modéré sont très utilisées aujourd'hui pour la déco et reçoivent un bon accueil du public et des grands décorateurs qui régulièrement partent d'une de ces œuvres pour faire la décoration d'un appartement entier.
Voilà, on part d'une de ces œuvres et on construit. Donc il nous reste quelques minutes, mais j'ose espérer que Denis Vaginet reviendra dans nos murs de Radio B. On va finir par un artiste, un trublion, quelqu'un de très étonnant, qui s'appelle Jim Léon.
Oui, alors trublion, c'est quelqu'un que l'on nomme l'Anglais de Lyon, parce qu'il vient d'Angleterre. Il arrive dans les années 60 avec une jeune Lyonnaise qui était partie en Angleterre comme jeune fille au pair. avec qui il aura 3 enfants, et il vient complètement bousculer la scène lyonnaise. Il arrive avec toute la culture américaine du moment, et il arrive avec toute la culture pop, et avec des capacités absolument extraordinaires de dessin et d'inventivité, un culot qui est tout à fait impressionnant. Plusieurs artistes vont s'inspirer de son travail, certains le reconnaissant volontiers, d'autres parmi les plus connus ne le reconnaissant pas, mais c'est comme ça, hein, les héritages, on les prend avec plus ou moins de respect pour ceux qui nous les ont laissés. En tout cas, lui, il bouscule tous les codes. Il vient rappeler un certain nombre de réalités, la relation avec l'alcool, avec les drogues, qu'il représente dans ses tableaux très très volontiers, bon, alors que les habitudes bourgeoises du moment laissaient plutôt ça au fin fond des salons et dans la discrétion. Donc il vient véritablement donner un souffle nouveau. Alors, Jim Leon, le Trublion, cet Anglais-là qui va colorer de manière extrêmement active Lyon pendant une décennie, tout le monde le connaît sans vraiment le savoir, parce que c'est par exemple l'auteur de l'affiche du film Peau d'âne.
D'accord.
Et c'est le décorateur, c'est lui qui a fait les décors de ce film-là. Donc on le voit en fait tout au long du film, on voit ses œuvres tout au long du film. Et bon, pas si on peut, enfin, on peut sûrement pas le résumer à ça parce que son œuvre est extrêmement complexe. Donc c'est un film qui date de 70, et après 70 il va aller beaucoup se promener aux États-Unis, pas mal travailler aux États-Unis et notamment dans toute la presse underground.
D'accord. Donc, pour conclure, nous reviendrons sur d'autres peintres et sculpteurs absolument prodigieux une fois prochaine. Nous ne les oublions pas. Mais je tiens à rappeler que vous pouvez découvrir à la Fondation Renault au Fort de Vez les artistes dont nous avons parlé et aussi des autres. Et cette exposition a commencé donc de samedi. Elle se tient jusqu'au 1er mars 2020. Donc, les heures d'ouverture tous les jours?
Du mercredi au dimanche, de 14 à 18 heures.
Merci beaucoup, Denis Vaginet.
Merci.
À une fois prochaine.